Cours de la semaine, le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Michael Ponge, bonjour.
Bonjour Gilles, il est 8h10 à Lima. La capitale péruvienne, où va bientôt débuter la cérémonie d'investiture du nouveau président Pedro Castillo, ancien syndicaliste qui n'a jamais fait de politique. Il prend ses fonctions officiellement ce mercredi. On en parle avec notre invité. On va revenir aussi longuement sur les premiers témoignages hier au Congrès américain devant la commission chargée de l'enquête sur l'attaque du Capitole le 6 janvier. Et puis la Martinique, de plus en plus dépassée, semble-t-il, par le Covid. C'est à la une du journal de la première. Avec vous, Sarah Vildeuil.
Et oui, en une semaine, plus de 3500 cas ont été détectés. De nouvelles mesures sont attendues, Michael.
À tout à l'heure, Sarah, pour en parler. Bienvenue à tous.
RFI, las voces del mundo.
Proclamo presidente de la República a don José Pedro Castillo Terrones.
Pedro Castillo proclamé vainqueur de l'élection présidentielle au Pérou. C'était la semaine dernière, un mois et demi après le second tour. Ce 28 juillet, jour des 200 ans de l'indépendance du pays, cet ancien instituteur rural, sorti de l'anonymat il y a 4 ans seulement, en prenant la tête d'une grève d'enseignants, devient officiellement président. Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Les cérémonies pour son investiture débutent ce mercredi. Elles se poursuivront demain à Ayacucho.
Oui, la prestation de serment de Pedro Castillo doit débuter dans tout juste moins d'une heure dans l'hémicycle du Congrès péruvien, détaille La Repubblica. Une fois ce passage de témoin effectué, le nouveau président prononcera un discours, son premier en tant que chef d'État. Discours au cours duquel Pedro Castillo, qui s'adressera à la fois aux élus et à ses concitoyens, exposera ses objectifs, notamment les plus urgents. Il devrait donc parler de la lutte contre la pandémie, de sa politique économique, ainsi que de la mise en place d'une assemblée constituante.
Cette cérémonie, Romain, qui se déroule à Lima, c'est sous très haute protection, avec de nombreuses mesures de sécurité.
10 000 policiers, des drones, ainsi que des hélicoptères seront notamment mobilisés dans la capitale pour garantir la sécurité, détaille El Universo, quotidien équatorien. 2 000 policiers supplémentaires seront quant à eux affectés à la protection des personnalités qui assisteront à ces cérémonies d'investiture. Il faut dire que parmi les personnes attendues figure notamment le roi d'Espagne, que Pedro Castillo a rencontré ce mardi, ainsi que de nombreux dirigeants et anciens dirigeants régionaux. Des mesures de sécurité importantes dans un pays, il faut le rappeler, très polarisé.
Et cette polarisation est-elle inéluctable ou bien Pedro Castillo peut-il réconcilier les Péruviens ? On en parle avec Lycelle Quiroz. Bonjour.
Bonjour.
Professeur d'études latino-américaines à l'université de Cergy-Paris, Pedro Castillo, présenté par ses détracteurs, notamment comme un communiste, c'est là son premier défi, rassurer et rassembler ce pays très polarisé.
Oui, absolument. C'est le premier défi qu'il a relevé, ce nouveau président, qui a été élu par une majorité de Péruviennes et Péruviens qui viennent plutôt de l'espace régional, des régions, des Andes, de l'Amazonie, et qui contraste un peu avec le public de la côte et de Lima, et qu'il s'agit aujourd'hui de rassembler et de proposer un gouvernement, d'union nationale, en tout cas, qui puisse répondre aux défis importants dont vous avez parlé, notamment la crise économique, la crise politique et la crise de la pandémie de Covid.
Et le Pérou, qui est l'un des pays les plus touchés d'Amérique latine par cette pandémie. Rassemblé, vous nous dites, Lycelle Quiroz. Pedro Castillo, on le rappelle aussi, arrive après une valse de présidents à la fin de l'année 2020. Trois qui se sont succédés en 5 jours. Le Pérou est habitué à l'instabilité chronique. Aujourd'hui, Pedro Castillo va devoir composer avec une assemblée, une chambre unique où il n'a pas la majorité. Vers qui il peut se tourner pour trouver des appuis et éviter encore une fois cette instabilité?
Oui, vous avez tout à fait raison. Le parti Pérou Libre arrive avec 37 sièges au Congrès sur 130, donc il n'a pas du tout la majorité. Et donc, il faut trouver des alliances, et notamment dans ce qu'on appelle la gauche progressiste au Pérou, c'est-à-dire une gauche plus ouverte, disons, urbaine, de personnes plus jeunes aussi de Lima, et ce qui constitue le groupe du Frente Amplio, et notamment des femmes comme Marisa Glave, Indira Wilk ou Veronica Mendoza. Il faudrait s'ouvrir davantage vers cet espace, et il y a eu beaucoup de concertations, de négociations pour pouvoir intégrer notamment des femmes dans ce gouvernement qui devrait être proclamé cet après-midi à l'heure du Pérou. à 16h, heure du Pérou.
Avec derrière tout ça, les Fujimoristes en embuscade, on le rappelle, Keiko Fujimori, donc de la droite populiste qui a perdu l'élection présidentielle pour la troisième fois. Elle s'est engagée à reconnaître les résultats, mais elle les avait contestés, elle avait contesté le décompte. Est-ce que cela participe à plomber, à rendre plus difficile ce début de mandat pour Pedro Castillo ?
Le début de mandat de Pedro Castillo est vraiment très difficile parce que, comme on vient de le dire, il faut rassembler et en même temps, il faut rassurer et composer avec l'opposition des Fujimoristes, en tout cas de la droite péruvienne qui a accepté finalement les résultats des urnes, elle sait, mais c'est sans conviction. Et puis, on attend surtout beaucoup des premières actions de Pedro Castillo et notamment toute la question économique, puisque ces Péruviennes et Péruviens attendent en particulier qu'on reste sur le modèle économique que le Pérou a depuis la fin du XXe siècle et qu'il ne bascule pas vers ce qu'on a pu présenter durant la campagne, c'est-à-dire une orientation vers un modèle chaviste ou un modèle castriste. Mmh. Ça, c'est la grande peur. Et donc, il y a toute une partie de la population qui est vraiment dans l'attente et l'opposition aussi et attend le vote de confiance du gouvernement. Donc, ça va être très difficile pour ce gouvernement.
Oui, et compte tenu de tout ce que vous venez de nous dire, effectivement, est-ce que cela vous paraît, est-ce qu'il vous paraît plutôt, Pedro Castillo, en mesure de répondre à ces attentes énormes des Péruviens ?
Alors, Pedro Castillo, il s'est montré quand même quelqu'un de très fort et de quelqu'un qui convaincu de ce qu'il doit faire. Il faut se rappeler qu'il est parti de rien. On ne le connaissait pas très bien au Pérou. Il n'était pas une figure importante de la politique péruvienne et pourtant il se maintient et il réussit à rassembler des millions de Péruviens. 8 millions de Péruviens, ce n'est pas rien. Il se présente quand même comme quelqu'un de qui représente les Péruviens les plus vulnérables, les plus pauvres, les oubliés en fait de la croissance économique péruvienne. Donc cet appui-là va compter. Et aujourd'hui, il y a une marche qui est organisée par exemple à Lima de soutien à son gouvernement, à sa présidence. Donc il y a quand même un appui d'une grande partie de la population. Donc il faut qu'il le capitalise et qu'il arrive à convaincre plutôt les élites de Lima qui sont, elles, hostiles pour une grande partie à son programme et à son gouvernement.
Décrit, je le disais, comme communiste, il l'a dit, hein, Pedro Castillo, la semaine dernière, ni chavisme, ni communisme, il n'y aura pas d'importation d'un modèle étranger au Pérou. En revanche, il a été félicité par Cuba, par le Venezuela, par le Nicaragua ou même la Bolivie. Est-ce que l'on peut s'attendre, Lissel Quiroz, sur le plan régional, à un changement de politique de la part de Lima ?
Alors, le Pérou ne pourra pas reprendre puisqu'il n'y a pas, comme je viens de le dire, un appui suffisamment large du Parlement pour pouvoir changer véritablement la politique économique et les structures économiques du Pérou. Il s'est engagé d'ailleurs à ne pas le faire, à rester dans l'économie, une économie qui veut sociale de marché, mais une économie de marché quand même, de conserver quand même, de ne pas nationaliser, de ne pas exproprier les terres des entreprises étrangères. Donc vraiment, il y a un engagement ferme sur ça. Donc, il n'y aura pas cette réorientation. Ce qu'il propose, c'est plutôt des réformes sociales et davantage travailler sur l'amélioration des conditions de vie des Péruviennes et des Péruviens les plus pauvres.
Et il propose, on va en terminer par là, Lissel Quiroz, aussi de mettre en œuvre une assemblée constituante, Romain Maresquet le disait, pour réformer la constitution de 93, héritée de Fujimori. En revanche, est-ce que c'est une priorité, ça, pour les Péruviens aujourd'hui ?
Alors, la priorité pour les Péruviens est de répondre plutôt à le problème principal, c'est la corruption. Le Pérou est gangréné par une corruption structurelle. C'est le premier problème qu'il faudra régler. Ensuite, la stabilité politique, pouvoir mener vraiment à bien les mesures proposées durant la campagne. Résoudre la question de la pandémie, parce que ce que a montré cette crise, c'est la fragilité
de vitesse.
Oui, la fragilité du système de santé qui est privatisé dans une très large mesure, également pour l'éducation. Donc c'est vraiment des chantiers sociétaux très importants qui sont la priorité pour ce gouvernement.
Qui s'est donné beaucoup d'objectifs pour ses 100 premiers jours de mandat. Lycelle Quiroz de l'Université de Cergy-Paris, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Cette investiture de Pedro Castillo, donc maintenant dans moins d'une heure, sur laquelle on reviendra bien sûr demain dans notre rendez-vous. Pour l'heure, il est 9h21 à Washington.
For the first time, I was more afraid to work at the Capitol than my entire deployment to Iraq.
Pour la première fois de ma vie, j'ai eu plus peur de travailler au Capitole que durant mon déploiement en Irak. Ces mots, ce sont ceux d'Aquilino Gonel devant la rediffusion des images de l'attaque du Congrès américain le 6 janvier dernier. Ce policier et trois de ses collègues blessés ce jour-là a été hier l'un des premiers à témoigner devant la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur ces événements. Romain Lemaresquier.
Oui, le New York Times revient sur le contenu de ces déclarations. Des témoignages agrémentés de montages vidéo, y compris des images des caméras corporelles des policiers qui démontrent la brutalité des faits. Un par un, ces quatre officiers ont parlé de cette violence brutale, du racisme et de l'hostilité d'une foule d'émeutiers en colère, agissant au nom du président Donald Trump. Des partisans qui les ont battus, écrasés et choqués, comme le détaille Michael Fanon, officier de police qui raconte ses journées cauchemardesques et ses conséquences. On l'écoute.
I had been beaten unconscious and remained so for more than 4 minutes.
J'ai été frappé alors que j'étais inconscient pendant plus de 4 minutes. À l'hôpital, les médecins m'ont dit que j'avais fait une crise cardiaque. On m'a ensuite diagnostiqué une commotion cérébrale, un traumatisme crânien et des troubles de stress post-traumatique. Alors que mes blessures physiques étaient en train de se résorber et que l'adrénaline a commencé à baisser après des semaines, on m'a laissé avec des traumatismes psychologiques et une anxiété liée au fait d'avoir survécu après des événements aussi horribles. Ce qui rend les choses encore plus difficiles et plus douloureuses, c'est de savoir que tant de mes concitoyens, y compris des personnes pour lesquelles j'ai risqué ma vie, minimisent ou nient carrément ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'avoir fait un aller-retour en enfer pour les protéger, eux et les personnes présentes dans cette salle. Mais trop de gens me disent maintenant que l'enfer n'existe pas ou que l'enfer n'était pas si terrible que ça. L'indifférence envers mes collègues est honteuse.
Shown to my colleagues is disgraceful.
Voilà, Michael Fanon qui tape du poing sur la table. Très remonté, Romain, contre les élus républicains pour leur indifférence à l'égard de ceux qui ont défendu le Congrès ce 6 janvier, des élus qui n'étaient même pas présents hier pour écouter les témoignages.
Et oui, c'est ce que détaille le New York Times, qui ne s'en étonne pas puisque le Parti républicain a tout fait pour empêcher la mise en place d'une telle commission, rappelle le quotidien. Les élus républicains qui se sont montrés les plus critiques quant à cette enquête ont justifié leur absence, détaille le Washington Post. Le chef de la minorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy, avait par exemple des rendez-vous de prévu. Jim Jordan avait une séance avec une autre commission. Et quant à la présidente de la conférence républicaine, Elise Stefanik, elle a tout simplement refusé de dire si elle avait suivi les débats. Un désintérêt méprisant qui s'ajoute aux accusations de certains responsables du Parti conservateur qui estiment Nancy Pelosi responsable des violences du 6 janvier. Selon eux, la chef de la majorité démocrate à la Chambre n'aurait tout simplement pas mis en place les mesures de sécurité nécessaires pour éviter de tels débordements.
Justement, Romain, Liz Cheney, l'une des deux membres du Parti républicain, membre de cette commission d'enquête, elle qui, on le sait, est très critique à l'égard de Donald Trump, elle a lancé un avertissement. Le Congrès doit faire toute la lumière sur cette affaire pour éviter que de tels faits ne se reproduisent.
Si les responsables ne sont pas tenus de rendre des comptes et si le Congrès n'agit pas de manière responsable, cela restera un cancer pour notre République constitutionnelle en sapant le transfert pacifique du pouvoir au cœur de notre système démocratique. Nous serons confrontés à la menace de plus de violence dans les mois à venir et un autre 6 janvier tous les 4 ans.
Alors, Romain, quels sont les premiers enseignements que l'on peut retirer de cette journée, de cette première journée de travail de cette commission d'enquête?
Eh bien, comme l'explique le New York Times, cette première journée a tout simplement permis de rétablir la vérité sur des faits qui ont été manipulés par certains élus républicains. Une première journée qui a permis de voir le gouffre entre la réalité présentée par les policiers et les mythes colportés par des partisans de l'ancien président Donald Trump qui refusent d'admettre ce qui s'est passé.
Romain Lemaresquier, merci. En bref, on termine avec cette arrestation, une de plus. Au Nicaragua, à l'approche de la présidentielle de novembre, la police a interpellé lundi le politologue José Peraza, accusé d'atteinte à l'indépendance et à la souveraineté, ce qui porte à maintenant à 29 le nombre d'opposants ainsi arrêtés. José Peraza est membre d'une formation d'opposition qui avait participé notamment aux manifestations anti-gouvernementales en 2018.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est avec vous, Sarah Vildeuil, bonjour.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Ça grimpe, les cas de Covid augmentent jour après jour en Martinique.
Oui, elle n'en finit pas de voir le nombre de cas de Covid augmenter. 3537 nouveaux cas en une semaine. Ce sont les derniers chiffres dévoilés par les autorités. Les précisions de Claude Gracien de Martinique la Première.
La tendance ne s'inverse pas. La courbe continue sa progression. Selon les chiffres de l'ARS, la semaine dernière, plus de 3500 personnes ont été testées positives au Covid contre un peu plus de 2000 la semaine précédente. Il est vrai que les personnes aussi ont été plus nombreuses à aller se faire tester. Le taux de positivité gagne 1,5 point par rapport à la semaine dernière et s'établit à 16,5%, supérieur au seuil d'alerte de 10%. Le taux d'incidence, dont le seuil d'alerte est fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, est en nette progression, 986 nouveaux cas recensés contre 625 la semaine précédente. Les hospitalisations ont grimpé, 135 contre 171 la semaine précédente, hausse aussi des patients en réanimation, 24 désormais contre 9 auparavant. On a compté également 8 décès supplémentaires, soit 111. La vaccination marque le pas chez nous. Elle n'augmente que légèrement, avec désormais un peu plus de 52 000 personnes au schéma vaccinal complet. Face à ce tableau, on peut s'attendre à de nouvelles mesures. Le préfet, en concertation avec les élus et les acteurs socio-économiques, devrait dans quelques jours annoncer de nouvelles dispositions destinées à freiner la progression de l'épidémie.
Et dans l'île Sœur, en Guadeloupe, le préfet de région prendra la parole aujourd'hui. On vient de l'apprendre. L'état d'urgence sanitaire est déclaré en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. C'est Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui vient de l'annoncer. On part maintenant en Guyane, où les travaux de la centrale électrique du Larivot sont suspendus provisoirement. La décision du tribunal administratif de Cayenne est tombée hier et c'est une première victoire juridique pour France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement. Les deux associations avaient déposé en juillet dernier un recours en référé contre l'autorisation environnementale pour cette centrale EDF. Mais cette décision inquiète Gabriel Serville, le président de la collectivité de Guyane.
Même si notre nouvelle majorité avait fait le choix d'aller vers les énergies renouvelables et de privilégier la croissance verte, même si nous avions voulu décréter l'urgence climatique, il est évident que c'est une décision qui nous inquiète parce que pour l'instant, nous ne voyons pas d'autres alternatives qui soient suffisamment viables, qui soient suffisamment fiables. Et on a bien vu le blackout que 60 000 foyers de Guyane ont connu très récemment, qui est venu nous dire à quel point il était important d'aller vite, à quel point il était important d'anticiper. Je crois que nous avons cruellement manqué d'anticipation. Et donc, face à une telle situation, il faudrait revoir urgemment la programmation pluriannuelle de l'énergie, de manière à mettre en cohérence nos besoins, les besoins du territoire avec les exigences qui nous sont imposées par la loi, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous ne voyons pas véritablement des compatibilités entre cet outil et les ambitions que nous portons pour le territoire.
Gabriel Serville au micro, Guyane la Première de Charlie Torres. Et on termine ce journal en Guadeloupe où depuis plusieurs semaines, les algues brunes, les sargasses sont de plus en plus nombreuses sur les côtes. Les émanations d'hydrogène sulfuré ou encore d'ammoniac atteignent par endroits des taux très préoccupants. C'est le cas de la Désirade qui flirte avec le seuil de préalerte, Michael. Merci.